VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par un dossier sur le procès de Jean-Pierre Bemba en RCA. Satisfaction de la société civile à Bangui après la condamnation de Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison. La Cour pénale internationale a prononcé cette sentence mardi à l'encontre de l'ancien vice-président de la RDC pour crimes de guerre, viol et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique. Un jugement qui est le résultat de la pression que plusieurs organisations de la société civile centrafricaine avaient exercée sur le gouvernement de Bangui pour saisir la CPI. La réaction du président de la Ligue des droits de l'homme de RCA, Joseph Bindoumi, joint par Eric Manirakiza.
Nous avons attendu beaucoup de temps pour avoir le résultat que nous avons eu, c'est-à-dire la condamnation de M. Bemba à 18 ans d'emprisonnement ferme. Mais ça nous réjouit. Quand bien même la procédure a été trop longue, trop lente, et puis qu'au cours de cette procédure, d'autres parties civiles sont décédées et n'ont pas écouté le jugement. Quand bien même la longueur de ce procès a fait que d'autres événements plus graves sont venus un peu léguer l'affaire Bemba au deuxième plan, nous sommes quand même très satisfaits de cette décision dans la mesure où il arrive, en ce qui concerne la République centrafricaine, au très bon moment pour qu'un message fort soit envoyé en direction des gens qui, aujourd'hui, comme les hommes du MLC, de Jean-Pierre Bemba commettent aussi des atrocités sur le territoire national.
Joseph Bindoumi à Bangui. Que peuvent espérer les victimes des exactions commises par les miliciens de Jean-Pierre Bemba en Centrafrique en octobre 2002 et mars 2003 à titre d'indemnisation? La réponse de l'avocate de ses victimes, Maître Marie-Edith Douzima, au micro de Félix Yepassi Zembrou.
La Cour a dit que dans les jours à venir, elle prendra une décision pour dire comment ça va se passer. Il faut rappeler que dans cette affaire, il y a plus de 5000 victimes. Donc, c'est l'affaire dans laquelle il y a plus de victimes. Donc, on a battu le record à ce niveau. Et la Chambre verra comment ça va se passer. Nous attendons sa décision, mais toujours est-il que j'ai déjà eu à dire dans mes écrits à la Cour ce que les victimes centrafricaines attendent de la Cour par rapport à cette affaire.
Voyez-vous dans ce verdict d'aujourd'hui de Jean-Pierre Bemba un message en direction des autorités de la République centrafricaine qui ont mis en place une Cour pénale spéciale ce qui concerne les exactions qui ont été commises durant les dernières années?
Oui, vous savez que la Cour pénale internationale n'intervient que lorsque il n'y a pas eu de jugement sur le plan national. Et donc, nous estimons que la mise en place de la Cour pénale spéciale en République centrafricaine, qui est une juridiction nationale, bien qu'il y ait des juges internationaux qui vont intervenir dans cette Cour, c'est une bonne chose. Et nous espérons qu'il y aura d'abord une bonne collaboration entre cette Cour et la Cour pénale internationale, puisque la Cour pénale internationale a été par les autorités centrafricaines par rapport aux exactions qui ont été commises depuis 2012. Je crois que ça sera une justice de proximité. Les victimes seront là sur place, parce que bien que les victimes sur les 5229 victimes qui ont été reconnues par la Cour pénale internationale, certaines sont venues témoigner ici, mais il y a cette distance qui sépare le lieu où résident les victimes et la Cour. Donc, organiser des procès au niveau national serait une très bonne chose pour les victimes.
Maître Marie-Edith Douzima, avocate des victimes centrafricaines de la milice de Jean-Pierre Bemba. Afrique de l'Ouest maintenant, le Mali veut changer sa constitution. Un comité d'experts composé uniquement de Maliens a été mis en place à cet effet. Les précisions de notre correspondant Bamako, Kassim Traoré.
C'est l'avocat Maître Mamadou Ismaël Konaté qui est le président du comité. Il n'a que 6 mois pour présenter son rapport. Le travail interne à court a permis d'élaborer les documents de base tels que la note d'orientation, la note méthodologique, la segmentation de la constitution, la synthèse des travaux de commission précédemment mise en place pour les réformes non abouties, l'élaboration des thèmes et opinions des jurisconsultes, la mise en place des commissions d'écoute des opinions des jurisconsultes, l'analyse des expériences d'ailleurs. Ce comité a l'avantage d'avoir en son sein des juristes et des personnes et ressources de qualité. Ce comité a la lourde responsabilité d'accomplir une mission noble et combien importante pour l'avenir du Mali, car il s'agit de la loi fondamentale de la République. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Gambie, trois hommes poursuivis pour avoir accusé le président Yahya Jammeh d'animosité envers les Mandingues ont comparu mardi devant un tribunal de Banjul. D'après l'avocat des prévenus, leurs aveux ont été obtenus de force. Idriss Fall.
Selon l'acte d'accusation, Ebri Maketa, Moussa Fofana et Alassane Diallo ont dit que les autorités ont enlevé Solo Sandeng, un opposant décédé pendant sa détention. Les trois prévenus auraient reproché au président Yahya Jammeh de ne pas aimer les Mandingues. Leur avocat Abdoulaye Fatih affirme qu'ils ont été battus, menacés avec une arme et contraints de faire des aveux écrits. Le président Yahya Jammeh est de l'ethnie Diola, alors que le chef de l'opposition, Ousseynou Darbo, lui aussi en prison, est un Mandingue. Pendant un meeting à Talendeng, non loin de Banjul, le président Jammeh a affirmé que tous les fauteurs de troubles dans le pays étaient des Mandingues. Adama Dien, le conseil spécial de l'ONU pour la prévention du génocide, s'est ému de ce discours contre les Mandingues, surtout lorsque Yahya Jammeh menace de les tuer un par un. Monsieur Dien rappelle que cette rhétorique au vitriol et les discours de haine peuvent aussi constituer un facteur de déclenchement d'atrocités, comme on l'a vu au Rwanda en 1994.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Libye, au moins 34 membres des forces pro-gouvernementales ont été tués, une centaine blessés hier, dans des combats avec le groupe État islamique qui est assiégé dans son propre fief à Sirte. Le bilan des pertes des djihadistes n'est pas connu, Eric Manirakiza.
Les forces du gouvernement d'Union nationale ont lancé le 12 mai une offensive pour reprendre Sirte, où elles ont pu entrer le 9 juin. Les milices de Misrata, les mieux armées du pays, des unités de l'armée libyenne et des gardes des installations pétrolières participent à l'opération militaire. Dans un communiqué, le centre de commandement basé à Misrata fait état de combats féroces contre les djihadistes. Depuis le début de l'offensive pour la reprise de Sirte, la progression a été ralentie par des djihadistes qui se cachent dans des maisons ainsi que des francs-tireurs postés sur les toits. Les islamistes ont aussi disséminé des explosifs sur les routes et ont recours à des kamikazes.
Guerre en Syrie, 25 civils dont 6 enfants ont été tués dans des raids aériens sur Raqqa, le fief du groupe État islamique dans le nord du pays. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces bombardements hier ont visé plusieurs quartiers de la ville et fait des dizaines de blessés, dont certains sont dans un état critique, a précisé l'Observatoire, ajoutant qu'il était dans l'immédiat impossible de savoir qui avait effectué ces frappes. En Europe, le spectre d'un Brexit, d'une possible sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, continue de planer. Stephen Clark est un écrivain britannique qui vit en France. Il a publié « God Save the Brexit », un roman qui raconte avec beaucoup d'humour les tiraillements d'un électeur britannique plongé dans un débat plus complexe qu'il n'en a l'air. À ce point, le « oui » et le « non » à la sortie de l'Union européenne sont au coude à coude. Stephen Clark nous parle du poids de l'immigration dans la campagne.
D'abord, ça va dépendre combien de personnes se déplacent, parce que il y a, dans tous les sondages, il y a une bonne dizaine de pourcentages d'indécis. Donc c'est peut-être les indécis qui vont décider le vote. Ça dépend aussi si on continue de répéter qu'une fois sorti, on réglera le problème d'immigration, parce que vous savez qu'il y a énormément de réfugiés syriens et afghans qui arrivent en Grèce. Et ceux qui veulent sortir de l'Europe s'imaginent que si on sort, ce problème va disparaître et qu'il n'y a aucun immigré qui va essayer de rentrer en Grande-Bretagne. Depuis quelque temps, la campagne pour sortir répète de plus en plus fort que le plus grand problème en Europe, c'est l'immigration. Et s'il continue, ça peut motiver plein de gens parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Londres. Par exemple, si vous allez à Londres, vous allez dans n'importe quel café, la personne qui vous sert, ça sera quelqu'un qui est arrivé récemment en Grande-Bretagne. C'est une réalité économique et sans eux, tous les restaurants de Londres seraient des selfs et il n'y aurait personne dans la cuisine. C'est un peu la même chose pour les hôpitaux, mais il y a des gens qui sont contre ça.
L'écrivain britannique Stephen Clark, auteur de God Save the Brexit. Et pour terminer ici aux États-Unis, deux hommes ont été reconnus coupables mardi par un tribunal américain de tentative d'aide à l'organisation djihadiste État islamique. Ils risquent plusieurs dizaines d'années de prison. Nader El-Ouzayel et Mohamed Badawi, originaires d'Anaheim en Californie, avaient été arrêtés en mai de l'an dernier. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.